Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, c'est Franck avec vous, donc sur Radio Droite Cité. Nous sommes ensemble pour une émission spéciale, donc Voyage à travers les étoiles, que vous allez retrouver donc pendant 4 jours jusqu'au jeudi, consacré entre autres à l'éclipse de soleil du 11 août, ce grand événement de cette année. Mais il y aura aussi autre chose, donc on va vous expliquer rapidement. Donc aujourd'hui on va parler de comprendre l'éclipse, demain mardi nous parlerons de comment bien observer l'éclipse, mercredi nous parlerons de la conquête de Mars et jeudi nous parlerons de sommes-nous seuls. Alors pour cette première partie d'émission, on va parler donc de comprendre l'éclipse, et puis je vais d'abord présenter les invités que j'ai autour de moi. Donc j'ai monsieur Philippe Lognonnet de l'Institut physique du Globe de Paris, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai monsieur Jean-Marie Delbos de l'Aérospatiale des Mureaux, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Jean Hetman de l'Observatoire de Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Et monsieur Joël Minois de la Société Astronomique de France,
et bonsoir.
Et monsieur Dominique Le Sieur de l'Association Française d'Astronomie.
Bonsoir.
Alors, on va commencer tout de suite par la première question. Donc, on parle beaucoup de l'éclipse de soleil du 11 août, mais qu'est-ce qu'une éclipse? Qui veut répondre? Monsieur Minois.
Quand vous aurez remarqué que la Lune se promène dans une trajectoire à peu près toujours la même sur le fond du ciel, que le Soleil se promène à peu près sur la même trajectoire, donc il n'est pas anormal que de temps en temps, ils se rencontrent. Et puis quand on a un peu plus de chance, la Lune masque entièrement le Soleil. À ce moment-là, il y a éclipse totale de Soleil à l'endroit où on se trouve.
D'accord. Donc il existe plusieurs sortes d'éclipses aussi, je crois.
Il y a des éclipses de Lune déjà, oui. Des éclipses de Soleil. Les éclipses de Lune, c'est quand la Lune est dans l'ombre de la Terre. Les éclipses de Soleil, c'est quand la Lune cache le Soleil pour nous. Et puis, on parle aussi d'éclipses totales et d'éclipses partielles. Et ben, quand une partie du ciel du Soleil seulement est masquée par la Lune, il y a une éclipse partielle. Et quand la Lune masque entièrement le Soleil, il y a une éclipse totale. Voilà.
Alors je crois qu'il en est pareil pour les éclipses de Lune, hein, je crois aussi.
Les éclipses de Lune, tant que la Lune n'est pas entièrement dans l'ombre de la Terre, et ça peut ne pas arriver à toutes les fois, eh bien, il y a une éclipse partielle.
D'accord. Donc, au niveau de cette éclipse, on parle donc que le 11 août 1999, il va y avoir une éclipse totale de Soleil. Et que va-t-il se passer exactement le 11 août? Qui veut répondre? Oui, monsieur Le Sieur?
Il va se trouver que le 11 août, donc, les circonstances vont amener cette éclipse à traverser la France. C'est ça qui est surtout intéressant, parce que, donc, comme le disait M. Minois, les éclipses, c'est assez fréquent. Il s'en produit en moyenne des éclipses totales au moins 2 par an. Parfois, ça peut même être plus que ça. Et là, en l'occurrence, cette éclipse, l'ombre de la Lune, ce jour-là, va traverser le territoire français, ce qui arrive très peu souvent, puisque la dernière fois que ça s'est produit, ça remonte au 15 février 1961, et que maintenant, donc, ça ne se reproduira plus avant le 3 septembre 2081.
Ah oui.
Donc ce sera l'éclipse à ne pas rater, si on veut en voir une. Et en fonction de la météo, espérons que le ciel sera beau et que ce jour-là, on pourra en profiter. Ce qui est intéressant, je crois, c'est de dire qu'il faut évidemment un alignement tellement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre pour que l'ombre vienne à tomber précisément sur le nord de la France, que ça explique bien sûr que le phénomène soit extrêmement rare en un lieu donné.
Mmh. Et alors, sur la France, là aussi, on a du mal un peu à comprendre, parce qu'il y a une ligne de totalité qu'on appelle. Alors en fait, l'éclipse ne va pas couvrir entièrement toute la France, il y aura seulement un endroit donné de la France où il y aura la totalité.
Oui, ça vient du fait que derrière un astre comme la Lune, on trouve une zone qu'on appelle la zone d'ombre, donc, et dans laquelle la Lune masque complètement le Soleil. Si un observateur vient placer son œil en n'importe quel point de l'ombre, le Soleil est complètement masqué par la Lune. Alors que à la périphérie, il y a une zone beaucoup plus vaste qui s'appelle la zone de pénombre, dans laquelle l'alignement entre l'observateur et les deux astres est moins parfait. Et donc, à ce moment-là, la Lune est légèrement décalée par rapport au Soleil, n'en cache qu'une partie, ce qui fait qu'il y a un morceau de Soleil qui reste visible. Alors, le jour de l'éclipse du 11 août, Il va falloir, bien sûr, pour voir l'éclipse totale, il va falloir se situer dans le cône d'ombre. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est un des éléments essentiels qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que si on ne va pas se placer dans le cône d'ombre, on verra une éclipse partielle. Mmh. Alors ce jour-là, ou bien on habite dans la zone, dans la bande de totalité, et puis à ce moment-là, on y reste et on voit l'éclipse totale. Mmh. Ou bien alors, au contraire, on habite à l'extérieur de cette bande de totalité et on n'a pas le choix, il faut prendre sa voiture et y aller.
Ouais.
La veille.
Ce qu'on pourrait.
Si on est intéressé à la voir totale.
Ah ben là, oui, ça vaut la peine.
D'accord. Alors, on parle aussi toujours sur les différents types d'éclipses. J'ai entendu parler aussi qu'il y avait des éclipses à lune annulaire. Alors, il s'agit de quoi, ça, au juste ?
Ça, c'est un. Je dis pas que c'est un peu tordu, mais les éclipses annulaires. En fait, tout à l'heure, on a dit que la Lune masquait entièrement le Soleil. La Lune se promène autour de la Terre avec une trajectoire elliptique, donc des fois elle est un petit peu plus près, d'autres fois elle est un petit peu plus loin, donc elle est un petit peu plus grosse ou un petit peu plus petite, et il y en a de même du Soleil. Donc, il se peut que, selon les éclipses, on ait un petit Soleil, une grosse Terre, une grosse Lune, et on a une éclipse totale. Ou alors, si on n'a pas de chance, eh bien, on est à un endroit où le Soleil est gros, on est plus près du Soleil, la Lune est loin de nous, donc elle est plus petite, et elle ne cache pas entièrement le Soleil, et il reste, quand on est placé là où il faut, c'est-à-dire dans l'axe de l'ombre, eh bien, on peut voir, pendant un instant assez fugitif, un petit anneau de lumière tout autour de la Lune, et ben, comme c'est un anneau, ça s'appelle une éclipse annulaire.
D'accord. Et lorsque l'éclipse donc est annulaire, il fait vraiment nuit sur Terre ou...
Non. Enfin, vous savez, la notion de nuit, c'est très relatif. Je pense que pendant l'éclipse qui a eu lieu en Australie, d'après les calculs que j'ai pu voir, il devait faire dehors à peu près aussi clair que dans ce studio tout de suite.
Ah oui, donc on peut dire quand même qu'il fait assez clair. Oui, monsieur Lognonnet voulait intervenir ?
Oui, en fait, cette notion d'éclipse annulaire ou pas annulaire, c'est tout à fait significatif d'une particularité actuelle, qui est qu'aujourd'hui, disons, la Lune a à peu près la même taille quand on la regarde dans le ciel que le Soleil. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a 100 millions d'années, ou dans 100 millions d'années, ça ne sera pas du tout la même chose. Et en particulier, dans 100 millions d'années, il n'y aura plus d'éclipse totale de la Lune. Donc il faut bien en profiter, parce que même si on ne peut pas voir les prochaines éclipses, disons dans 100 millions d'années, quel que soit l'endroit sur Terre, il n'y aura plus du tout d'éclipse. La raison est simple, c'est que la Lune est en train de s'éloigner très doucement en fait, de la Terre, à une vitesse de l'ordre de, disons, 3 cm par an. Et donc, ce faisant, en fait, dans 50 ou 100 millions d'années, elle sera un petit peu plus loin, elle sera un petit peu plus petite, elle n'arrivera plus du tout à cacher le Soleil, comme c'est le cas actuel. Alors, par contre, si on retourne il y a 100 millions d'années, là, la Lune était plus proche, et par exemple, à l'époque des dinosaures, eh bien, il y avait beaucoup plus d'éclipses totales qu'aujourd'hui.
Alors ça, c'est quelque chose quand même, parce que dans les choses que j'ai appris dans l'astronomie, on disait au contraire que la Lune ne s'éloignait pas de la Terre, mais se rapprochait, parce que ça faisait comme une fronde qui ralentissait, et au fur et à mesure qu'elle ralentit, elle se rapprochait de la Terre.
Ah oui, alors ça on va déborder sur l'éclipse, mais là, c'est un problème fondamental, disons, en planétologie. Disons qu'aucun satellite n'est capable de rester longtemps autour d'une planète. Il a en gros deux futurs, soit il s'écrase sur la planète, soit il s'en va, et au bout d'un certain moment, en fait, il n'est plus lié à la planète, et donc il va être capturé par d'autres astres. Alors par exemple, un satellite qui va tomber sur une planète dans peu de temps, c'est une des deux lunes de Mars, qui s'appelle Phobos, et dans, disons, 20-25 millions d'années à peu près, bien, cette lune-là, en fait, va tomber sur Mars, hein, et il ne restera plus que l'autre lune qui s'appelle Deimos, qui, elle, au contraire, s'éloigne. Alors, bon, notre lune à nous, si je puis dire, elle va être autour de la Terre encore pendant quelques milliards d'années, mais un jour, elle va partir. Donc, en astronomie, les choses ne tournent pas aussi rond et aussi, comment dire, de manière aussi continue qu'on peut l'imaginer avec une échelle correspondant à la vie humaine.
Oui, en fait... La Lune, par les marées qu'elle exerce sur la Terre, les océans, etc., crée des frottements sur la Terre, donc ça ralentit la rotation de la Terre. Mais il faut que l'ensemble mécanique Terre-Lune conserve son ensemble de rotation. Donc s'il y a Terre ralentie, il faut que la Lune s'éloigne pour réaugmenter le moment angulaire, comme on dit, quoi. Donc en ce moment, elle s'éloigne. Mais pour Mars, par exemple, le satellite est tellement près qu'il va tomber de plus en plus vers la planète. Bon, donc il faut profiter vraiment cette année de la Lune, hein, parce que dans 100 millions d'années, c'est fini.
Oui, mais enfin, je pense que nous, il y aura longtemps qu'on sera plus là. Hein, d'ailleurs, le public aussi, d'ailleurs, je pense. Hein. Alors, on va justement toujours dans ce cadre de comprendre l'éclipse. J'ai été interviewé, moi, une personne qui s'appelle Denis Savoie, et on écoutera donc cette interview dans quelques instants. On va d'abord faire une pause musicale. On va écouter tout de suite un extrait donc de l'album La Carte au Trésor, c'est Le Repos du Chasseur. De retour donc dans nos studios de Radio Droite Cité pour cette émission spéciale Voyage à travers les étoiles, consacrée notamment à l'éclipse du 11 août. Donc aujourd'hui, on parle de comment comprendre l'éclipse. Et je vous l'annonçais justement juste avant cette pause musicale que j'ai été rencontré pour vous Denis Savoie, qui est le directeur du planétarium du Palais de la Découverte. Et je lui ai demandé justement qu'est-ce que le Palais de la Découverte organise pour mieux comprendre cette éclipse. On écoute ça tout de suite. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Je suis Denis Savoie. Je suis le directeur du planétarium du Palais des Découvertes à Paris.
Êtes-vous passionné par l'astronomie ou est-ce que c'est en fait à cause de votre travail ?
Je crois pas qu'on puisse diriger un planétarium si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Donc effectivement, l'astronomie, qui est vaste, hein, qui regroupe beaucoup d'astrophysique, c'est une passion. Mais comme c'est un domaine assez vaste, je suis, disons, plus spécialisé dans certains domaines. Et en l'occurrence, un planétarium, c'est plutôt fait pour montrer les mouvements. C'est pas un lieu où on parle de cosmologie, d'évolution de l'univers. On peut le faire, mais le planétarium, ça sert à montrer les mouvements, les accélérer. Et donc, c'est le lieu idéal pour montrer, pour visualiser en temps réel le phénomène de l'éclipse.
Alors, actuellement, parmi les nombreux spectacles que vous proposez au planétarium, on peut voir un spectacle qui explique l'éclipse de soleil. Comment vous êtes-vous renseigné pour préparer ce spectacle ?
Alors, c'est pas vraiment un spectacle, en fait. La particularité du planétarium, du Palais des Découvertes, c'est qu'il n'y a rien d'enregistré. C'est toujours un conférencier pendant 45 minutes qui présente en direct un phénomène astronomique, qui peut être les saisons, des éclipses, la précession, etc. Et en l'occurrence, cette éclipse du 11 août 1999 est prévue depuis des années, voire on peut même dire des siècles, hein, puisque dès l'Antiquité on a su calculer les éclipses. Et donc il nous semblait tout à fait essentiel de faire une séance dont le thème soit exclusivement consacré à la mécanique céleste de ce phénomène.
En plus donc de cette représentation, qu'est-ce qui est prévu pour le 11 août au Palais de la Découverte ?
Alors non seulement à partir du 1er juillet, il y aura tous les jours une séance consacrée à l'éclipse. On va avoir une salle pendant à peu près un mois et demi à l'entrée du Palais de la Découverte consacrée aussi à l'éclipse où il y aura des exposés, 8 mètres de cartes où on trace la ligne de centralité, des films, des conférences, des panneaux, comment observer l'éclipse, où faut-il aller, quelles précautions prendre. Et le 11 août, on a un projet d'emmener gratuitement avec des bus des personnes sur un lieu situé près de Noyon avec la Société Astronomique de France.
Et vous, le 11 août 1999, vous serez où exactement ?
Je souhaite être sur la ligne de centralité. On pourra le voir à Paris, à forcerie de toute la France, mais comme partiel. Il faut vraiment être sur cette ligne qui fait à peu près 100 km de large, le plus près possible de ce qu'on appelle, je l'ai dit, la ligne de centralité, puisque c'est là que l'éclipse dure le plus longtemps. Il faudrait être masochiste pour se mettre aux limites boréales et australes, où là, ça ne dure que quelques secondes, en fait. Hein. Donc il faudrait que sur des villes comme Noyon ou Laon, qui ne sont pas très loin de Paris, et pour bénéficier du spectacle, à condition, bien sûr, qu'il fasse beau, ce qui est l'inconnu dans ce genre de phénomène.
Enfin, pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos auditeurs ?
S'ils ont la possibilité d'observer cette éclipse totale, puisque la prochaine éclipse totale de soleil en France, c'est le 3 septembre 2081. Donc, à moins que la médecine fasse des progrès considérables, peu d'entre nous auront la chance de voir une deuxième fois, mais il y en a une en 2001 totale, mais qui sera visible du côté de l'Afrique de l'Est. Donc, un maximum, faites des efforts pour voir ce phénomène astronomique qui est tout à fait exceptionnel et qui a marqué vraiment les hommes depuis la plus haute antiquité.
Très bien, ben je vous remercie.
Merci.
Voilà, donc c'était l'interview de Denis Savoie, directeur du planétarium du Palais de la Découverte. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui voulaient réagir justement à cette interview, monsieur Henneman ?
Oui, Denis vient de dire que c'est un phénomène exceptionnel. Alors moi, je voudrais donner un conseil tout bête pour cette éclipse. D'abord, d'être bien placé. Peut-être d'y aller la veille, parce qu'il y aura peut-être des embouteillages pour tous les Français qui voudront se précipiter vers les zones de totalité. Mais je voudrais recommander de regarder ce phénomène en touriste qui lève les yeux au ciel, tout simplement, et qui n'essaie pas de faire des photographies plus ou moins sophistiquées, faire un peu clic-clac, merci Kodak ou n'importe qui. Alors, mon conseil, c'est, et je l'ai déjà expérimenté une fois, c'est pendant une demi-heure avant l'éclipse totale, avant la totalité, d'être complètement caché par un voile noir double pour ne pas voir aucune lumière et que l'œil s'habitue à l'obscurité. Et puis, au moment où l'éclipse sera totale, un astronome de service dira « Découvrez-vous ». Alors là, vous voyez le ciel, la couronne qui s'étend très loin parce que vous êtes sensible. Et c'est un phénomène remarquable.
J'imagine, oui. Alors, toujours donc dans le cadre de comprendre l'éclipse, il y en a qui veulent réagir encore, non? Oui, monsieur.
Tout à l'heure, monsieur. On parlait un petit peu là, de la différence entre une éclipse totale et une éclipse annulaire.
Oui.
Je crois qu'il y a deux ou trois chiffres qui sont intéressants à ce propos-là. C'est que le Soleil est à peu près 10 millions de fois plus brillant que la pleine Lune. Alors, imaginez par exemple que vous vous situiez dans un endroit où le Soleil est caché à 99,9%. Dans ce cas-là, il vous reste le millième de sa lumière habituelle. C'est-à-dire, il reste encore une lumière qui correspond à l'éclat de 10 000 pleines Lunes.
Ah, quand même, ouais.
10 000 pleines Lunes, alors que l'éclipse est presque totale, puisqu'elle fait 99,9%. Alors que la couronne du Soleil, donc cette atmosphère du Soleil qui apparaît pendant la totalité, elle est aussi brillante que la pleine Lune. Donc vous voyez la différence énorme d'obscurcissement qu'il y a entre le fait de se trouver dans la zone d'ombre ou bien dans la zone de pénombre. C'est complètement différent. Et c'est pour ça, on va y venir une autre fois,
oui.
Mais je crois qu'il est important de bien dire que au moment de la totalité, on peut regarder avec l'œil non protégé.
D'accord. Alors ça, justement, au niveau des protections, on en parlera donc demain dans cette rubrique consacrée à bien observer l'éclipse. Et alors là, une question maintenant, toujours par rapport à comprendre l'éclipse, c'est est-ce qu'il va vraiment faire nuit ? Qui répond, monsieur Hinman?
Non, moi j'ai vu celle de 61 dans le sud de la France. Eh bien, je dominais un peu la mer, on voyait loin. Eh bien, au loin, l'atmosphère est encore illuminée. Donc, cette lueur illumine quand même l'endroit où on est, il ne fait quand même pas nuit. Et pourtant, là aussi, je m'étais habitué à l'obscurité avant, pour que l'œil soit très sensible. Donc, ça a montré que ce genre de luminosité résiduelle, peut-être quelqu'un qui était ébloui pendant l'approche de la totalité ne verra pas ça.
Alors, ça pourrait...
Oui. Oui, par contre, en fait, l'éclipse, on en parle essentiellement tout de suite en parlant de la Lune, du Soleil. Mais il se trouve qu'une éclipse, ça fait aussi des petites choses autour de la Terre, et en particulier dans l'atmosphère de la Terre. Et ça rejoint un petit peu l'idée qui fait nuit. En fait, une éclipse va cacher le Soleil, et donc finalement, pendant un certain moment, l'atmosphère de la Terre ne va pas être réchauffée par ce Soleil, et donc va se refroidir relativement rapidement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la zone d'ombre se déplace à une vitesse supersonique. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en gros, l'éclipse va se comporter comme une sorte d'avion... supersonique, hein, donc il va y avoir un bang supersonique, hein, qui est associé au froid en fait de l'éclipse. Et une éclipse donc génère, hein, dans l'atmosphère des sons qui sont en fait associés à ce bang supersonique qu'on appelle des infrasons. Alors on les entend pas, c'est des sons très basse fréquence, mais en Europe, hein, il y a tout un réseau en fait d'observatoires géophysiques qui vont regarder l'atmosphère, qui vont regarder le champ magnétique de la Terre, et on pense que pendant cette éclipse là en fait va y avoir des perturbations assez importantes du champ magnétique terrestre, pas du champ magnétique provenant de l'intérieur de la Terre, mais disons du champ magnétique qui est créé par toute l'atmosphère à très haute altitude de la Terre, qui est électrisée, qui est ionisée. Donc on va avoir en fait d'autres phénomènes que simplement ces phénomènes disons lunaires ou solaires qui vont être observés.
D'accord, je vois M. Hennemann qui voulait réagir.
Oui, à propos de cette tache d'ombre, cette colonne d'ombre dans l'atmosphère due à la Lune, il y a intérêt aussi, pendant cette éclipse, d'être situé sur une hauteur, la plus haute possible, donnant, pour ceux qui sont habitués à l'obscurité, donnant dans la direction où cette ombre va partir à une vitesse supersonique. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire, de voir la tache d'ombre partir à l'horizon à toute vitesse. Alors, moi en particulier, je vais aller dans un sommet des Vosges du Nord pour la voir partir vers la direction de l'Allemagne.
Ouais, ça doit être quelque chose qu'il faut surtout pas manquer.
Mais... Ben oui.
Monsieur Le Sieur, vous vouliez intervenir ?
Juste pour dire, oui, je trouve que M. Heidmann a tout à fait raison. C'est un élément intéressant pour cette observation que de se dire que si au dernier moment, on garde encore la possibilité de choisir le lieu dans lequel on va se rendre, effectivement, une hauteur, c'est extrêmement bien choisi. Et en particulier, il y a aussi un autre endroit en France qui peut être très intéressant à ce point de vue-là, c'est la falaise de la Manche, puisque la falaise dans la région de Fécamp domine les flots de la Manche à peu près de 90 mètres. Et donc, par conséquent, grosso modo, ça donne une visibilité jusqu'à une trentaine de kilomètres. Alors, comme l'ombre se promène à 2850 km à l'heure, ça fait 800 mètres secondes. À 30 km, vous la voyez arriver pendant 30 secondes. Et ça, je peux vous dire que c'est, on en a presque la chair de poule hein, quand on voit ça. Ah, c'est presque
oui,
ça.
C'est hein.
Parce que c'est impressionnant comme oui. tout, parce qu'on aperçoit cette énorme colonne noire qui balaye les flots à Mach 2,3 et qui vient vers vous. Hein. Et alors, et pendant les dernières secondes, on l'attend et tout d'un coup, schlac, elle passe comme ça. C'est instantané.
Ouais, ça doit être impressionnant. Oui.
Et là encore, je recommande de ne pas essayer de faire clic-clac, régler des filtres, etc., mais de regarder en pur touriste.
Voilà, tout à fait. Je crois que c'est le mieux qu'il faut faire. Donc voilà, on arrive pratiquement à la fin de cette première partie d'émission. Donc s'il y en avait qui voulaient encore réagir par rapport au fonctionnement, oui.
Oui, moi je trouve que les falaises de Normandie, c'est bien, seulement c'est un inconvénient, c'est plat en haut. Si bien que s'il y a beaucoup de monde, il n'y a que le premier rang qui va voir. Alors d'ici que les rangs d'après poussent.
D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je remercie donc tous ceux qui étaient ici ce soir dans les studios. Donc Monsieur Lognonnet, Monsieur Delbos, Monsieur Jean Hennemann, Monsieur Le Sieur, Monsieur Minois. Je remercie aussi beaucoup le public. On va lancer le générique et puis on se donne donc rendez-vous donc demain, hein, même heure, 20h15, 20h45 pour une nouvelle émission de Voyage à travers les étoiles. Merci à tous et à demain.